Vous écoutez
RMC. RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h34, Florent Gautreau est là, Daniel Riolo est là, Julien Laurence est là, Sébastien Bassong avec nous également. Pas mal de messages, on reçoit beaucoup de messages sur Direct Studio sur le foot anglais ce soir. N'hésitez pas à nous appeler au 32-16 si vous voulez parler avec Seb, par exemple. Il y a quelques supporters messins qui traînent sur Direct Studio là. Bon, là on parle de l'Angleterre, on parle pas de Metz. Je m'excuse les gars, on vous souhaite de vous maintenir évidemment. Bon, faisons un peu le point. Ah oui, la cup là, parce que c'est un truc frais là. Ils arrêtent les replays, les matchs rejoués.
Enfin. Trop, mais bah enfin. Franchement, enfin.
Ouais, c'est intéressant, c'est un vrai.
Ton micro, Julien.
Ouais. C'est vraiment intéressant comme débat. Seb le dit, il en a joué trop, peut-être. Je pensais aussi pour moi.
Là, c'est un coup de canif dans la culture anglaise.
Et c'est ça le problème, effectivement. Ah oui. Et surtout pour les clubs de division inférieure, parce que pour eux, c'est vrai que financièrement.
Ah ouais.
Si tu fais un 0-0 chez toi à domicile et que tu vas ensuite à Old Trafford contre United et que tu prends la moitié de la recette, ou que tu fais 0-0 à Old Trafford et que tu reçois ensuite chez toi pour le replay contre United, c'est un match exceptionnel, tout le monde a envie d'être là. C'est pour une ville comme on parlait de Doncaster tout à l'heure, on voit ce genre de club-là, c'est fantastique. Le problème, c'est que ça fait un calendrier encore surchargé, que pour les clubs de Première Ligue, c'est une galère sans nom, et que ça fait maintenant longtemps qu'ils militaient pour enlever ces replays. C'est enfin arrivé. Les clubs de division inférieure ne sont pas contents, forcément. Je pense que tu as d'autres mécanismes que tu peux trouver, notamment financièrement, pour les dédommager dans un sens. Mais voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Après, je pense aussi que si tu es Doncaster, tu as plus de chances sur un match, par exemple, parce qu'ils aiment beaucoup ce qu'on fait en France. S'il y a deux divisions d'écart, t'inverses et t'es chez toi, quoi qu'il arrive.
Et ça les Anglais s'inspirent des Français, ça serait la meilleure, celle-là.
On sait jamais. Hein. Mais voilà, il y a d'autres mécanismes. Après, t'as plus de chances, si t'es Doncaster, sur un match à domicile, de taper United que sur deux matchs avec un à Old Trafford.
Ça, c'est sûr.
Mais je pense qu'ils sont, beaucoup portés culture à ce niveau-là. Les clubs.
Pas touchés à l'héritage.
Voilà, pas touchés à l'héritage. La tradition et le fait de. Ils sont plus dans la fête que dans l'optique de réellement se qualifier pour aller loin dans la compétition, ouais. Parce que je pense qu'ils ont les clubs de division inférieure, pas la championship, mais vraiment en dessous, l'occasion de jouer contre un club de championship ou de première ligue, c'est une occasion de faire la fête. Et pour eux, je pense que dans la culture anglaise, on leur retire une nouvelle occasion d'aller, au pub et d'aller boire et de vivre des moments. Mais c'est vrai. Mais là, pour eux, c'est très très important. De la même manière qu'aux États-Unis, on tailgate, ils ont une culture autour du sport. Les Anglais, les matchs de cup, surtout la cup, ça c'est spécial. La cup, quand on revient en janvier, on te met la pression, même en première ligue, sur le match de cup.
Votre premier match, ouais, pour les clubs de première ligue.
C'est le match du retour, et on sait que les petites divisions, vraiment eux là, c'est après le Boxing Day, c'est encore la fête, c'est une manière de continuer la fête. Donc je pense que c'est à ce niveau-là que ça va, que le bail blesse. Mais bon, on peut pas contenter tout le monde.
Il y a une autre tradition, c'est la fameuse tradition du blackout du samedi. Raconte ça, Julien, parce que tout le monde n'est pas forcément
au courant. J'ai eu pas mal de questions sur les réseaux, des gens qui m'ont dit est-ce que tu peux en parler dans l'after. C'est aussi très intéressant. Cette règle qui existe depuis toujours en Angleterre, qui est aucun match n'est télévisé, que ce soit un match anglais ou un match européen, un match étranger, entre 14h30 et 17h15 tous les samedis. C'est une règle qui date de toujours la justification et pour que les gens continuent à aller voir notamment leur équipe locale. Donc si tu es supporter de Manchester United par exemple, mais que tu habites à Doncaster, encore une fois on prend Doncaster, la Première Ligue a peur que si les matchs de 15h en Première Ligue, notamment celui de Manchester United, est à la télévision, donc comme en France tu peux voir n'importe quel match.
Tu n'iras plus dans ton petit club d'à côté.
Voir Doncaster.
À condition que dans le club d'à côté ça joue à ce moment-là.
Oui, mais tous les matchs de champion, enfin la plupart des matchs de championship
programmés,
3e division, 4e division, sont à 15h le samedi.
Je te signale que ça existait en France pendant des années, et c'était en gros, on disait le dimanche pas de foot l'après-midi parce qu'il y a les gamins qui vont jouer, parce qu'il y a les petits clubs qui vont jouer, et ça a fini par pas tenir puisque maintenant on a mis du championnat.
Et ça a gueulé quand la Ligue 1 à 15h.
Exactement, ouais. On a étalé les journées le dimanche et tout, mais ça existait en Ligue 1.
Il y avait
pas de foot
a gueulé,
le dimanche entre, on va dire, le dimanche après-midi parce que c'était la journée des matchs des gamins. Des clubs, ça n'a pas
gueulé là récemment. C'est vrai qu'on a eu des matchs en diurne pour la première fois en Ligue 1. D'ailleurs, Zidane à Cannes, tu vois, pour te dire, avec Luis Fernandez, c'était à cette époque-là. Il y a eu des matchs dimanche après-midi à cette époque-là. Ça date un petit peu, ouais, dans les années 90. Et là, ça a été une révolution, parce que, et ça s'est arrêté pour cette raison-là, parce que, effectivement, c'était la tradition qui est les matchs amateurs le dimanche. Puis après, finalement, les droits télé ont tout emporté et la tradition. Mais la force de la tradition, mais la force de la tradition n'est pas la même ici en France.
Là, ce que tu veux dire, c'est que le blackout du samedi risque de se terminer.
Je pense qu'à un moment, pour gagner plus d'argent dans les droits télé,
ils en sont déjà, je sais pas combien de milliards.
Oui, mais ça stagne.
Ça s'arrêtera où,
Gilbert? Oui, mais ça montera plus. Maintenant, ça montera plus. Ah oui. Le seul moyen pour monter, c'est peut-être cette case-là de 15 heures. Ça change ou qu'il se passe quelque chose, que tu fasses un mini multiplex, je sais pas moi, quelque chose comme ça. Mais le plus fou finalement dans cette histoire, c'est que ça touche les clubs, les matchs européens. Donc un classico qui commence à 15 heures en Angleterre, tu le vois pas. 15h, 17h le classico un samedi, il n'est pas télévisé en Angleterre. Un match qui commence à 17h ou le match de Ligue 1 qui est pour nous à 16h le samedi, tu vois la dernière demi-heure. Un match qui commence à 17h heure anglaise, et ben le premier quart d'heure, tu vois pas. T'arrives, ils prennent l'antenne, mais ils prennent l'antenne, t'as la pub, et ils prennent l'antenne à la 16e minute.
Mais du point de vue du téléspectateur, tu payes très cher ton abonnement, et donc t'as pas le match en fait.
Non. T'arrives à la 16e minute, donc t'as
raté un match. C'est bizarre.
Ça, c'est un truc de fou quand même.
Bah oui. J'aime bien les Anglais être bizarres.
Ouais. C'est la spécificité dont on parlait tout à l'heure, c'est les spécificités.
Je pense que vraiment, ils s'en gargarisent. Ils aiment ce côté, on fait quelque chose qu'on a un peu démocratisé dans notre pays, dans notre région, que personne ne va comprendre.
Ah, c'est ça.
Ouais, que personne ne va comprendre, ouais, mais que quand même, pareil, vu qu'on a le plus d'argent, or, ça veut dire, bah, ils vont quand même s'aligner, les gens. Et les gens, ils vont quand même venir, ils vont quand même... Et ça, je pense que c'est une mentalité. Ouais, ils sont fiers de ça. Et nous, ça nous... Voilà, on s'est habitués. Hein.
Tiens, ouais. François est là au 32-16, il veut parler de la première chip. François, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous.
Toi, tu suis Leeds, c'est ça?
Exactement, exactement. J'étais passé il y a un an, quand on était descendu de la PL en Championship, à l'époque où Bielsa avait été remercié. J'avais découvert évidemment Leeds avant leur arrivée, leur retour en première ligue. Et je voulais juste que Julien puisse nous parler un petit peu de la Championship, parce que pour moi, c'est vraiment la quintessence d'un championnat de football.
C'est diffusé où en France, la Championship maintenant?
Bein Sport, non?
Bein Sport.
Bein, c'est diffusé? Combien ils diffusent tous les matchs ou
Tous les matchs de Ligue, quasiment, je dirais 8 à 9 matchs sur 10, c'est diffusé en VO sur Bein Sport. Et ouais, je voudrais que Julien nous en parle un petit peu, parce que comme je disais, c'est pour moi la quintessence d'un championnat de foot. 24 équipes, 15 matchs.
Ah, c'est incroyable.
C'est le truc, c'est tellement long.
Avec le play-off à l'arrivée. Quoi.
Pour ceux comme, j'imagine, François, tu as regardé hier le Middlesbrough Leeds, qui était bon, en même temps que le Milan Inter, mais pour ceux qui avaient deux écrans ou deux télés. C'était fantastique, c'était une ambiance de fou. Middlesbrough, c'est une belle équipe en plus, qui joue bien, vraiment bien en ballon avec Carrick.
Ça fait longtemps qu'ils sont plus
ils sont pas loin de pouvoir remonter, mais là le niveau est tellement élevé entre Leeds, Leicester et Ipswich qui sont les trois, deux vont monter directement, les autres ça ira dans les playoffs. Mais c'est une saison fantastique, vraiment dans le rythme. Dans
Middlesbrough, une de leurs heures de gloire, c'est pas quand il y a ton coach préféré qui est...
c'est ça le Sylvain Ripoll anglais, exactement.
C'est avec Carambeu, pardon, surtout.
Et Carambeu, tout à Carambeu. Fait, ils ont eu Juninho, rappelle-toi, le brésilien Juninho, le petit,
oui, Arnaud Bucano.
Ouais,
non, Juninho Paulista.
Juninho, c'est le nôtre, pardon. Oui, le petit là,
fantastique joueur.
Je commentais la première ligue à l'époque.
Ouais, c'est ça.
Avec Middlesbrough et tout. Bah, il y avait Franck Kedru.
Exactement, Franck Kedru. D'ailleurs, ils vont en finale de Coupe d'Europe.
Stuart Downing, qui était international en plus.
Ouais, tout à fait.
Mido, placé là-bas.
Stuart Downing. Donc là, ils sont un peu courts. Middlesbrough, ils sont 9e. Je ne pense pas qu'ils accrocheront les playoffs. Mais sinon, entre Leeds, Leicester et Ipswich, c'est vraiment très bien ce qui se passe. J'espère pour toi, François, que Leeds pourra monter. Il vous reste deux matchs. Ça va jouer à rien du tout. Sinon, tu auras les playoffs.
Bon, c'est magnifique de monter via les playoffs.
Ah ouais, c'est incroyable.
Moi, je suis monté avec Norwich.
Ah oui, exact.
T'as fait une montée avec le tournoi final. Oh là là, oh, le bordel.
Et la finale à Wembley.
Avec les matchs à Wembley, c'est ça?
Combien ça fait de matchs?
Et ça a été contre Middlesbrough qu'on a gagné.
Ouais.
Ah ouais. Franchement, c'était. Si à choisir, j'aurais pas préféré monter directement. Vivre cette finale à Wembley, comme ça. Non, c'était franchement un de mes meilleurs souvenirs dans le football.
Ouais.
C'était juste incroyable.
C'est quoi, c'est moite-moite dans le stade chaque
45-45.
C'est
incroyable.
C'est vraiment.
Je l'ai vu, ça. C'est...
Tu le vis et sincèrement, c'était fort. Donc, oui, la Championship, c'est vraiment spécial. Et je dirais même que pour ceux qui ne l'ont pas joué, c'est pas un mal de jouer la Championship parce que ça te montre un côté différent du football, une intense. Quand tu peux vraiment performer en championship avec un bon et après rester en première ligue.
Ce que tu disais de l'intensité tout à l'heure.
Au niveau des contacts, ouais.
Là, t'aurais pas eu besoin de ton match à Doncaster.
Non, franchement, le niveau d'intensité de la championship, mardi, samedi, mardi ou mercredi, à ce niveau-là, des fois, tu vas dans des stades le mardi soir. Et ça cogne. Ça va, des fois, ça va vite quand même. Techniquement, c'est moins fort.
Bien sûr. Les terrains sont moins bons.
Techniquement, c'est moins fort. Mais quand même, ça te donne des oppositions où tu dis, t'apprends beaucoup. Et quand tu finis, tu montes.
Donc ça fait 46 matchs en saison régulière, plus le play-off pour ceux qui vont monter.
Voilà, ça, donc entre 3e et.
Est-ce que t'as encore plus dans ce championnat les coachs un peu rudimentaires?
Ah oui,
surtout. Beaucoup
tout à l'heure, tu le disais, je t'ai pas interrompu, mais bon. Mais moi, c'est une idole de gamin, mais en coach, qu'est-ce qu'il était nul.
Qu'est-ce qu'il était nul en coach. Je vais citer
des joueurs qui étaient fabuleux, mais qui ont été des coachs.
Attends, je veux l'anecdote sur Mark Hughes.
Mais bidon. Mais coach, mais joueur tellement. J'adorais ce joueur. Mais coach, bidon. Alan Shearer,
parles de manager, mais Alan Shearer, l'aura,
le charisme,
on n'avait pas besoin qu'il soit un bon manager, qu'il soit un bon coach.
Bon entraîneur.
Quand il arrivait, mon Dieu, franchement, c'était un plaisir d'être mal coaché par Alan Shearer. Extraordinaire. Kevin Keegan, quand tu arrives et il te parle. Vraiment, comme, et c'est vrai en plus, hein, franchement, il arrivait sur le terrain, c'est limite s'il ne parlait même pas.
Il n'y en a même pas sur le terrain d'entraînement. Dans le podcast, il avait les business à faire au téléphone.
Puisque j'ai écouté le podcast en entier qui était intéressant, il y a une anecdote que tu racontes que à l'époque, tu as Keegan comme coach.
Ouais,
et
Michael Owen et.
Tu as Owen et un autre joueur, Butch, je crois.
Et l'équipe.
En gros, ils vont voir le coach, ils disent bon, aide-moi, maintenant, il faut faire jouer le petit.
Non, mais c'est fort parce que Kevin Keegan, il me dit je ne jouais pas au départ. Je ne jouais pas parce qu'il y avait beaucoup de défenseurs, bref. Et un jour, parce que je m'entraînais bien, j'étais bon. Je pense que j'étais le meilleur. Non, c'est vrai, j'étais le meilleur.
Il est camerounais ou pas?
Il est parisien, surtout.
Double
feu. Ça fait beaucoup.
T'inquiète pas.
T'es pas trop Keegan, dit par hasard. Hein.
En fait, à l'entraînement, Michael Owen, il va voir Kevin Keegan et Nicky Butt, qui étaient deux quand même superstars. Et c'est là où Michael Owen et Nicky Butt, ils lui disent, écoute, coach, on sait qu'il y a de la politique, on sait qu'il y a telle chose, mais le meilleur, c'est le petit. Donc en fait, il m'appelle. Et il me dit, c'était drôle, parce qu'il me dit, Michael, Mo, comme on l'appelait, Mo, est venu me voir et Nicky. Donc, comme ils m'ont dit qu'il faut que tu joues, c'est toi le meilleur. C'est comme ça qu'il m'a dit, est-ce que t'es prêt? Je dis, oui, je suis prêt.
Tu t'es pas initié au Paris Olympique.
C'était pas Lucien Riquet, quoi.
Je pense qu'en fait, il a
perdu tout son oseille aux chevaux.
Il arrivait avec un sac plastique, tu vois, un peu comme des sacs, ou je sais pas, des sacs plastiques. Michael Owen, Nicky Butt, Shea Given, ils arrivaient tous les matins. Avec des sacs comme ça, remplis de billets. Ils avaient leurs journaux comme incroyable. Ça, tu vois. Et ils jouaient les jeux. Michael Owen, il avait son truc de posséder une jambe.
Oui, il avait une jambe, propriétaire de chevaux.
Une jambe à cheval. De la folie, comment? Et ils ont vraiment dépensé énormément d'argent. Mais je les ai vus arriver avec des sacs plastiques. Hein. Mais même pas.
Mais Owen est connu pour avoir
un hélicoptère.
Il arrivait en hélicoptère, Michael Owen.
Il habitait encore à Liverpool. Il allait à Newcastle en hélicoptère.
En hélicoptère, il se posait un peu loin.
Ok, ce genre de Newcastle qui a tout perdu aussi au Paris sportif.
Ça, Owen, je ne savais pas le coup de l'hélicoptère.
Non, si, il arrivait en hélicoptère.
Mais les gars, il ne faut pas faire deux discussions parallèles.
Michael Owen, le coup de l'hélicoptère, ok. Mais, je veux dire, je ne sais pas comment dire, plus humble que Michael Owen, il ne parle pas à Michael, silencieux. Vraiment, Michael, c'était, moi-même, j'étais surpris parce que je suis arrivé, je me suis dit, c'est Michael Owen, je joue avec lui à la play et tout.
Ballon d'or.
Et en fait, Mo, il ne parlait jamais. vraiment, et des fois il était désolé.
Ah non, il suivait les cours, donc il pouvait pas. Récemment, il a pas mal parlé en texto, il s'est fait attraper par les tabloïds.
Ah ouais?
Oui, Madame Owen, t'es pas très content.
Mais tu vois, tout à l'heure, ça me rappelle, je sais pas si la discussion elle a eu à l'antenne ou c'était pendant la pub, quand tu me dis que tu comprends pas bien l'expression il méritait mieux ou il a eu ce qu'il mérite. Pour Michael Owen, là pour le coup, je suis d'accord avec toi. Le gars est ballon d'or, c'est un attaquant merveilleux. Si sa carrière s'est terminée comme ça, bon, c'est de son fait. Il s'entraînait moins bien, les canassons, ça l'intéressait plus.
Michael était diminué par ses blessures. Ouais, Michael trop peur. Michael arrivait comme il était vraiment psychologiquement touché par quelqu'un qui arrive vite sur lui parce que les blessures qu'il a reçues, elles l'ont vraiment traumatisé. Donc ça fait que dès qu'il arrivait à un demi-contact, inconsciemment, un peu comme Jonathan Woodgate, tu vois, comme Woodgate, Michael Owen.
Woodgate, il a sa carrière foutue. La façon dont il a été blessé, il n'est jamais revenu, le gars.
Et c'est ça,
lui, littéralement,
c'est lui, il se blessait tout seul.
C'est star, ce mec-là. Hein. Ah
ouais, il se blessait tout seul.
Avec Gourcuff.
Dans sa tête. Et c'était Michael Owen, je pense que c'est ça qui l'a vraiment tué. Après, oui, les paris, etc.
Après, mais côté, quand tu mets autant d'argent, enfin les paris, ça l'a plombé complètement aussi. Hein.
Allez, dernière petite pause et ensuite on continue la discussion.
Ah oui, t'as fait du bon monde. Ah oui, ces mecs-là, c'était quelque chose.
Marc dans l'after.